Europe 1,
9h-11h,
François Claus.
Bonjour à toutes et tous, heureux de vous retrouver pour ces deux heures. Bonjour Julie.
Bonjour François.
Alors on va parler en première heure du PSG, mais n'éteignez pas vos transistors, n'éteignez pas vos MP3, vos autoradios. On va pas forcément vous parler de 4-4-2, de verticalité du jeu. On va essayer de comprendre le rapport.
De tir au but aussi peut-être.
Peut-être le tir au but, on en parlera quand même un peu à la fin. Non mais d'essayer de comprendre comment le Paris Saint-Germain est beaucoup plus qu'une simple équipe de football et que à travers le PSG, c'est aussi quelque part les rapports entre les Français et leur capitale. C'est aussi vraisemblablement l'image de ce qu'est devenu aujourd'hui le foot mondial, l'emblème iconique de ce soft power. Est-ce que ça se fait au détriment du sportif, comme on a pu le voir sur le terrain? Puis on va essayer de comprendre avec des grands spécialistes qui sont déjà autour de la table ce qui s'est passé ces dernières années entre les ambitions affichées et les résultats sportifs. On parle quand même d'un club qui vient d'être 7 fois champion de France, qui a gagné plus de 10 Coupes de France, qui est devenu en 5 ans l'une des 10 meilleures équipes européennes. Et on nous parle de cauchemars, de crises, de descente aux enfers. Donc on va essayer de relativiser tout ça. N'hésitez pas, vous, à apporter vos témoignages, que vous soyez à Paris ou en province, 39-21. Et puis Julie, deuxième heure et changement complet d'univers. Nous allons partir vers cet empire qui nous fascine, dont la gastronomie, les mangas, le cinéma, la littérature nous envahissent et nous intéressent, mais qu'on ne connaît pas finalement. Et à l'occasion de cette cérémonie historique pour le Japon d'abdication d'un empereur pour la première fois, eh bien on va s'interroger sur le rapport d'une société très laïque au sacré. Nous serons avec là des grands spécialistes du Japon. Vous êtes allé au Japon, vous êtes passionné par cette culture, eh bien n'hésitez pas à nous appeler 39-21. On fait le tour de la question, nous sommes ensemble jusqu'à 11h.
9h-11h, on fait le tour de la question avec François Claus sur Europe 1.
Je suis heureux d'accueillir dans ce studio l'un des consultants préférés et des footballeurs et des téléspectateurs. C'est un papier qui est paru dans France Football ce matin. Nous sommes heureux de l'entendre régulièrement sur Europe 1. Bonjour Alain Roche.
Bonjour François, bonjour à tous.
Vous avez été également l'un des grands défenseurs du Paris Saint-Germain des années 90. Vous avez joué dans plusieurs grands clubs français, peut-être trois parmi les cinq plus grands, disons, Bordeaux et Marseille. Et donc votre regard sur la manière dont ce club vit nous intéresse très fortement aujourd'hui. Il est l'un des grands observateurs, il a ses mots à lui du football, vous l'entendez également régulièrement sur Europe 1, vous le lisez dans France Foot. Bonjour Nabil Djellit.
Bonjour François, bonjour à tous.
Et on attend avec impatience justement vos commentaires où vous dites souvent tout haut ce que beaucoup de gens pensent tout bas, donc vous n'hésiterez pas Europe 1, c'est dans la tradition de notre radio. Et puis lui, bien sûr, vous le connaissez, il suit le PSG de l'intérieur, service des sports d'Europe 1. Bonjour Julien Froment.
Bonjour François.
Vous allez nous raconter justement comment vous avez, vous, vécu cette ère qatari, comment aujourd'hui le club a changé dans sa manière de communiquer, dans sa manière d'être, et on va essayer de comprendre avec vous ce que sont les ressorts de ce club qui est beaucoup plus qu'un club. Vous avez-vous une opinion, et ça je pense que vous en avez beaucoup, si on s'en réfère aux heures qu'on a pu passer sur les comptoirs des cafés ou dans les différents restaurants de Paris et d'ailleurs en France, pour voir que c'était le sujet de conversation numéro un et qui a fait la une de tous les journaux. Alain Roche, je disais, Paris n'est pas un club comme les autres. Est-ce que vous, comme joueur, vous avez joué 5 saisons Paris Saint-Germain ? 6 peut-être, six, même. 6 oui. Saisons Paris Saint-Germain. Vous avez joué à Bordeaux et vous avez joué à Marseille. Est-ce que c'était différent de jouer à Paris ?
Oui, parce que vous êtes dans la capitale de la France, dans une ville extraordinaire, qui a beaucoup de centres d'intérêt aussi. Donc, ce qui est plutôt pas mal aussi pour les joueurs, pour se relâcher dans des moments un peu où il y a de haute pression.
Se relâcher ou pas trop se relâcher, c'est l'autre tentation, la ville qui brille.
C'est toujours pareil, on en parlera. Et c'est peut-être pour ça qu'on a eu un parcours plutôt très bon en coupe et moins en championnat. Mais c'est vrai que la pression médiatique est supérieure ici. Et là, on est passé dans une catégorie qui est haute. C'est la résonance internationale avec l'arrivée des Qataris et surtout l'arrivée de tous ces grands joueurs au Paris Saint-Germain, qui sont connus mondialement. Donc la pression, elle est mise, et elle doit être mise bien sûr par ses dirigeants. On n'a pas l'impression que c'est le cas en ce moment, mais la pression médiatique est très forte pour tous ces joueurs-là. Ouais. Ce qui est totalement différent avec Marseille, où c'est vraiment une pression totalement populaire.
Ah, c'est ça, pression populaire d'un côté, dites-vous, du côté de Marseille, où il faut résister aux tribunes, et là, il faut avoir, j'allais dire quoi, une forme, un comportement, une manière d'être à Paris aussi. différente.
On doit être exemplaire, vous êtes épié, et surtout, ce club a décidé d'être reconnu dans le monde entier, donc ça veut dire qu'il y a tout le marketing qui met en place, le sponsoring, et c'est vrai que l'image des joueurs est capitale, et c'est ça qui draine un peu l'image de ce club-là, mais à un moment, il n'y a pas que l'image des joueurs, il faut des résultats.
Oui, j'allais dire, l'image des joueurs est parfois plus importante que la performance sportive.
Exactement, et c'est là où peut-être ils se trompent par moment, c'est qu'il faut donner peut-être sûrement davantage d'exigences à tout le monde, on le voit parce qu'il y a des baisses de régime assez importantes, on l'a vu en fin de saison, mais la pression doit être constante sur ces joueurs-là. Moi j'ai été joueur, si vous donnez trop de liberté aux joueurs à un moment, vous en profitez, et vous détournez de ce qui est
bravo pour votre
quotidien, c'est gagné.
C'est un témoignage sincère et lucide. Nabil Djellit, il y a une donnée qu'il faut rappeler quand même lorsqu'on parle de la singularité de Paris, c'est un club qui a pratiquement un siècle de moins que les grands rivaux européens. Le Paris Saint-Germain est un club très jeune, né en 1970, là où les autres sont nés à la fin du 19e au début du 20e. C'est une différence importante.
Bah, c'est une différence importante, oui, surtout à l'échelle d'une capitale. Quand on regarde les autres capitales européennes, il y a beaucoup de clubs très, très compétitifs, plusieurs grands clubs même dans les autres capitales européennes. À Londres, je veux dire, il y a 14 clubs professionnels, la moitié en première division. Nous, en région parisienne, malgré un potentiel extraordinaire, un vivier incroyable, comparable à celui de Rio de Janeiro en termes de joueurs, on a un seul, entre guillemets, grand club, sans manquer de respect, évidemment, au Red Star qui s'est construit le siècle précédent, mais qui a du mal à répondre présent dans les exigences professionnelles de très haut niveau. On a un seul grand club, un grand club qui est en plus polarisé sur la banlieue ouest, plutôt voilà le autour d'Auteuil, plutôt des quartiers riches finalement, alors que quand on regarde la sociologie de la région parisienne et le contexte populaire autour du football, bah, c'est davantage la région francilienne. Aujourd'hui, qu'on a proposé au Paris Saint-Germain d'aller faire un tour vers Saint-Denis, bah, ça ne les intéressait pas non plus forcément. Donc il y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte autour de ce club. Mais en 40 ans quand même, c'est un club qui a quand même marqué l'histoire du football français. Parce que je rappelle quand même que c'est un club, il n'y a pas beaucoup de Coupes d'Europe qui ont été remportées par des clubs français, et le Paris Saint-Germain on a remporté une, notamment sous Luis Fernandez face au Rapide de Vienne, si je ne dis pas de bêtises, en 95, avec un but de
Bruno Ngoti sur coup franc, et c'était au stade de Bruxelles, et j'étais là-bas ce soir-là comme journaliste.
Voilà. Et après, comme l'a dit Alain à juste titre, et moi je lâcherai la balle, parce que moi je jouais devant et je ne faisais pas beaucoup de passes, je n'ai pas fait carrière, c'est un club qui a quand même basculé dans une autre dimension, et qui a basculé dans presque l'irrationnel depuis l'arrivée des propriétaires qataris.
Julien Froment, vous qui suivez le foot pour Europe 1, justement, suivre Paris Saint-Germain, ce n'est pas suivre un club comme les autres. Il y a des contraintes, il y a un cadre qui est, il faut bien l'expliquer à nos auditeurs, très différent de celui des autres clubs français.
Oui, déjà tout simplement, pour parler avec les joueurs, c'est extrêmement compliqué parce que tout est, vous l'avez dit, tout est cadré. Déjà, ils n'aiment pas trop s'exprimer, très clairement. C'est un peu une corvée des fois, en fait, parce que, pour bien expliquer aux auditeurs, des joueurs sont désignés à la fin du match. Ils doivent passer par une zone mixte où là, tous les journalistes les attendent. Alors forcément, quand il y a un mauvais résultat, on peut comprendre qu'ils n'aient pas envie de parler, mais ils sont désignés par le club. Et des fois, ils passent devant nous et ils ne parlent pas. Ils ne veulent pas s'exprimer. Alors, je ne sais pas si c'est une particularité au Paris Saint-Germain, mais c'est l'un des rares clubs en Ligue 1, en tout cas, où les joueurs, très clairement, très souvent, ne veulent pas parler. Donc ça, c'est compliqué. C'est une contrainte pour nous, parce que pour expliquer comment ça se passe au Paris Saint-Germain, c'est mieux d'avoir
des
contacts et des témoignages. Donc ça, c'est vrai que c'est assez différent par rapport aux autres clubs français. Et tout est cadré, parce que voilà, la moindre phrase d'un Kylian Mbappé ou d'un Neymar, ça a un retentissement mondial. C'est
un
le moindre
juste
fait des gestes.
Avant de passer la pub, Neymar, c'est combien? 300 millions, 400 millions de followers dans le monde. La phrase de Neymar, elle va irradier la planète entière. Et évidemment, ça change la donne. Et c'est beaucoup plus qu'un simple joueur de foot, on l'a compris. Mais justement, est-ce que c'est pas ça qui vient à un moment donné pénaliser le football lui-même et les résultats? On fait le tour de la question, Julie. On a posé le cadre. On va rentrer maintenant sur le terrain.
Le tour de la question avec laposte.fr/pro. Démarquez-vous en imprimant vos timbres avec le logo de votre entreprise.
9h-11h, François Claus sur Europe 1.
Europe 1. Jusqu'à jusqu'à 10h le point sur la situation du PSG, éliminé cette saison en Coupe de France, mais aussi en Coupe de la Ligue et en Ligue des Champions.
Mais champion de France quand même, Julie, en championnat. Et c'est pour ça qu'il faut relativiser un petit peu les mots qu'on entend. Pour être tout à fait précis sur le chiffre qu'on donnait, oui, Neymar, il a bien 300 millions de followers sur l'ensemble des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, et c'est plus que tout, à lui seul, que tous les clubs français réunis. Voilà pour les données. Pour se replonger dans l'ambiance, ben, nous étions samedi soir sur l'antenne d'Europe 1, c'était juste avant minuit, au micro, un certain Julien Froment.
Paris, c'est une première sous l'ère Qatari. Paris perd une Coupe Nationale en finale. Ce n'était jamais arrivé au Stade de France, et là, il va y avoir des maux de crâne du côté du Paris Saint-Germain, parce que, on l'avait dit, en cas de défaite ce soir, la saison serait ratée du côté du PSG. Paris qui n'aura remporté que deux trophées, le trophée des champions, est-ce qu'on peut vraiment compter ça comme un trophée, et la Ligue 1. C'est arrivé une fois, pareil, sous QSI, c'était en 2012 quand Carlo Ancelotti a pris ses fonctions à la place d'Antoine Comboiré. Mais là, Paris, c'est le coup derrière la tête, cette défaite en finale de la Coupe de France. Mais ce soir, surtout Stéphane, ce qu'on a envie de retenir, c'est la joie. La joie, la libération pour Rennes qui remporte enfin une Coupe de France 48 ans après.
Stéphane, c'était l'ami Stéphane Beignet qui suit le stade Rennais pour Europe 1 dans toutes les émissions sport du week-end depuis de longues années. Julien Froment, et vous avez raison de terminer, parce que la beauté du sport, ben, c'est que le petit, quelque part, a battu le gros. Mais Nabil Djellit, on sent bien dans les commentaires de Julien, et ça résumait ce qu'on sentait à ce moment-là en France, dans ce rapport que les Français ont avec Paris. On voudrait voir Paris gagner la Coupe d'Europe, c'est à peu près tous les Français pensent ça. Et en même temps, quand le PSG chute, eh bien, il y a une part de... On aime voir aussi, quelque part, cette équipe perdre parce qu'elle est trop forte, trop arrogante,
oui,
peut-être.
Oui, mais après, c'est un peu des ressorts humains classiques. On a envie de voir les puissants tomber, je veux dire. C'est un peu dans l'inconscient collectif, ces fascinations et répulsions, quoi, d'un côté. Alors, évidemment, c'est fascinant de voir Neymar, mais en même temps, il nous agace aussi. Donc, c'est un rapport qu'on peut retrouver dans d'autres registres de la vie, même de tous les jours.
Mais ce qui était extraordinaire dans ce match, c'est qu'on a eu les deux aspects. On a eu une demi-heure absolument exceptionnelle de Paris, deux buts, dont un Neymar formidable. Et puis après, bien, ce délitement, vous l'avez senti sur le terrain, Julien Froment.
Oui, complètement. Quand on voit la première demi-heure de jeu, on se dit, bah, Paris va écraser Rennes, ça va finir à 3, 4, 5-0, tellement les Parisiens étaient faciles. Et puis, dès qu'il y a un grain dans l'engrenage, un petit truc qui vient gêner un peu la mécanique parisienne, bah, le but contre son camp de Presnel Kimpembe, là, Paris a perdu pied. Et Rennes revient un peu miraculeusement quand même dans le match. Mais Paris n'arrive pas à rebondir, à avoir peut-être un sursaut d'orgueil. Il tombe un peu dans une certaine facilité. Et là, on sent que le match leur échappe complètement. Et finalement,
et on voit le scénario se dérouler. Et on se dit, c'est Manchester saison 2 qui est en train de se dérouler sur la pelouse.
C'est là qu'on voit qu'ils sont malades, parce que normalement, ça ne doit pas leur arriver.
Surtout qu'ils ont des occasions pour tuer le match, très clairement.
Alain Roche, vous qui connaissez le foot de l'intérieur, quand vous voyez ça sur l'écran, vous vous dites, c'est un problème dans la tête, c'est un problème de trop de followers sur les réseaux, sur les réseaux, et qu'on ne pense plus à l'essentiel, qu'un match de foot, c'est d'abord un engagement physique et mental exceptionnel.
Moi, je crois que tout grand joueur, toute grande équipe, à un moment, peut douter aussi. Et depuis cette élimination contre Manchester, cette équipe a lâché, déjà mentalement, parce qu'il y a des joueurs qui se préparent pour la Copa América, il y en a d'autres qui n'ont pas envie de se blesser. Quand vous avez 18 points ou 20 points d'avance en championnat, eh ben vous baissez le pied. C'est humain, voilà, mais j'oublie pas ce que cette équipe a fait pour avoir 20 points d'avance au mois de mars. Ce qui pose problème, c'est que vous pouvez perdre. Néanmoins, c'est la manière qui interpelle à chaque fois. Donc, oui, je pense qu'il y a un relâchement. Au bout d'une demi-heure, cette équipe mène 2-0 avec beaucoup de facilité. Et inconsciemment, on se dit, bon, le match est plié. Même nous, ici, à la radio, on se disait, il y aura 5-6 ce soir. Ne vous inquiétez pas, quand vous êtes sur le terrain, vous avez aussi cette même sensation-là. Et après, qu'est-ce qui se passe? Mais en face, vous avez une équipe qui a du répondant, qui se révolte, qui met des coups. Parce qu'il faut mettre des coups face au Paris Saint-Germain, ou en tout cas mettre de l'impact physique. Et là, le doute s'installe. Et là, c'est plus pareil. Mais une équipe qui est forte, quand elle doute, ben, elle devient faible. Et c'est ce qui est arrivé, de la nervosité, à l'image de ce qu'a pu faire Kylian Mbappé, de la frustration aussi en fin de match. Et le rapport de force change. Voilà. Donc ça peut arriver à tout le monde. Simplement, c'est pour ça qu'il faut toujours s'imposer un degré d'exigence constant, constant, constant. Et ça vient de quoi? De leader sur le terrain, il n'y en a pas. Il faut des joueurs de tempérament, de caractère. Et un entraîneur aussi qui en impose. Et lui aussi, j'ai l'impression que depuis Manchester,
il a perdu la main.
Il a perdu un peu la main. Je pense qu'il a perdu un peu la main parce que, je vous disais tout à l'heure, il a donné un peu trop de liberté, trop de confiance aux joueurs. Et surtout que lui aussi manque de fébrilité. Et c'est là où on a envie de voir un entraîneur qui était très serein pendant 8 mois, qui a séduit la terre entière, et moi le premier, par ses choix tactiques, par son discours, par son apprentissage du français. Et là, lui aussi panique dans ses déclarations d'après-match, hein, où il s'en prend à ses dirigeants.
Il y a une image terrible, on le voit là, avec quasiment sa capuche, il veut se cacher là sur le banc.
Quand il s'en prend à ses dirigeants après Lille, après ses joueurs après Nantes. Voilà, donc c'est vrai que cette équipe peut déranger par moment, sa manière de fonctionner, ses réactions par moment, mais tous les gens vont voir le Paris Saint-Germain à l'extérieur, quoi. Tous les stades sont pleins, quand Neymar se déplace, quand Mbappé est là, voilà, donc...
Et comme je vous le disais, même des supporters marseillais aimeraient voir Paris Saint-Germain champion d'Europe.
Les Marseillais jouent à jamais les premiers, ils veulent rester les premiers.
Provocatrice étant, ayant été correspondant d'Europe 1 pendant 11 ans à Marseille, il y avait un petit second degré, disons, allez, on enlève le massif des Calanques et tout ce qui se passe autour du Vélodrome, mais ailleurs en France, on aimerait le voir aussi. On va continuer à s'interroger justement sur ce rapport ambivalent qu'évoquait très bien Alain Roche. À un moment donné, est-ce que d'abord ça ne rend pas cette équipe plus humaine finalement? Parce que les défaites, ça participe de l'histoire d'un club. Et puis de voir comment cette névrose à un moment de la défaite peut se traiter. A tout de suite, on fait le tour de la question.
9h-11h, François Claus sur Europe 1.
€29.21 la minute, c'est le standard pour participer au débat sur le PSG et le hashtag Europe 1 pour les réseaux sociaux. François Claus.
Et nous sommes avec nos invités Alain Roche, le consultant d'Europe 1 et de Canal+, avec Julien Froment du service des sports d'Europe 1, Nabil Djellit de France Football. Nabil Djellit, est-ce qu'à un moment donné, dans ce qu'on évoquait là sur ce délitement de l'équipe, est-ce que le business, l'image est devenue plus forte que le sportif et est-ce que le Paris Saint-Germain finalement souffre de ça? On est capable de s'engager pendant 20-30 minutes, on dit qu'on a fait le contrat en marquant 2 buts et puis tout d'un coup on s'effondre.
Mais il y a le terrain, mais il y a ce que veulent réellement finalement ceux qui ont acheté ce club, quoi. Il y a la gouvernance, quelque sorte. Vous me parlez d'image et de sportif. Alors certes, leur objectif, c'est de gagner la Ligue des Champions, parce qu'aujourd'hui, la Ligue des Champions, ça a une résonance incroyable, c'est un instrument géopolitique. On rappelle que c'est un club qui a la main de propriétaires qataris. En face d'eux, il y a les Émirats Arabes Unis qui ont acheté Manchester City. Donc ça dépasse, en fait, le cadre du football, cette histoire. Alors très sincèrement, plus ça avance, plus je commence à me dire, non pas en perte et profit, mais je me dis quelque part, aujourd'hui le Paris Saint-Germain c'est quelque part vissé d'entrée, puisque pour eux c'est un instrument avant tout de soft diplomatie, comme on dit, donc ils occupent le terrain, ils sont là, ils ont acheté, comme on pourrait acheter le dernier sous-marin, ils ont acheté Neymar qui est aujourd'hui, comme vous le disiez à juste titre, plus qu'une marque, encore plus fort que le club et qui est pour eux une pub incroyable, qui est presque comme un produit, un placement financier. Donc plus ça avance, plus j'ai l'impression au final que le projet, il avait bien démarré du côté du Paris Saint-Germain avec Leonardo, Ancelotti, Zlatan Ibrahimovic, et plus ça avance, plus je me dis finalement que quelque part, peut-être que si vraiment ça les dérangeait d'être la risée à chaque fois de l'Europe avec des
à
sorties
fois,
de route.
Deux fois.
Ouais. Non mais si ça les dérangeait vraiment avec les sorties de route, avec des sorties de route comme on a vu, je veux dire, des décisions fortes, elles auraient été prises au niveau de l'organigramme. Est-ce qu'elles ont été prises? Non. Donc quelque part, moi je pense que peut-être que ça ne les dérange pas tant que ça. Et finalement, le Paris Saint-Germain, ça reste plus un instrument politique.
Rampe de lancement pour l'organisation, notamment de la Coupe du Monde. Avant de donner la parole à Alain Roche et à Julien Froment sur ce thème, on a un auditeur qui nous appelle précisément de Parçay-Mêlée. Bonjour Jérôme.
Oui, bonjour.
Vous êtes Parçay-Mêlée, c'est dans la région Tourangelle, hein?
C'est à côté de Tours, ouais, tout à fait, ouais.
Nous écoutons votre analyse et votre témoignage.
Déjà, je voulais juste vous remercier d'avoir basculé en fait sur la vraie problématique de l'émission, parce que quand vous avez présenté le sujet, on était vraiment sur est-ce que le PSG est un grand club et quel est l'impact en fait des pétrodollars et de la gouvernance qatari. Et en fait, pendant 10-15 minutes, on a plutôt parlé du PSG comme grande équipe. Et je pense que véritablement, en fait, aujourd'hui, on est peut-être dans une crise de croissance. Les résultats sont pas forcément là, mais comme disait Alain Roche tout à l'heure, je crois que tout se met en place petit à petit en fait, d'un point de vue gouvernance. On a eu des petits problèmes avec le fair play financier, dans la mesure où il y avait trop d'argent qui venait directement du Qatar. Aujourd'hui, c'est plus ou moins résolu avec le sponsoring d'accord sur le maillot. Donc de ce côté-là, tout se fait en coulisses. Maintenant, il y a peut-être eu des erreurs de casting, effectivement, dans le secteur sportif, mais d'un point de vue géopolitique, les objectifs du Qatar sont en train de se remplir. C'est-à-dire que le Qatar, aujourd'hui, a été situé sur la carte du monde. C'est ce que dit notamment un chercheur, Pascal Boniface, en géopolitique. Ils ont repéré Paris pour pouvoir se mettre sur la carte du monde, parce que Paris, c'était la seule métropole, finalement, qui était disponible, la seule capitale disponible pour avoir une grande marque française et une grande marque sportive dans le monde.
En rappelant, Jérôme, que Paris est tout simplement, avec ses 88 millions de touristes annuels, la ville du monde la plus visitée.
Tout à fait.
Et
tout à fait, oui, donc...
Oui, allez-y, Jérôme, parce que Alain Roche va réagir à votre propos.
Oui, tout à fait. Donc, je pense qu'en fait, le cap ou le plan de route est en train d'être respecté. Malheureusement, il y a peut-être un peu de retard à l'allumage sportivement. Il y a peut-être eu des erreurs de casting, mais au final, je pense que le plan de route va être suivi et on est bien aujourd'hui sur l'objectif rempli du PSG comme grande marque mondiale, marketingement parlant, géopolitiquement parlant, etc.
Merci Jérôme pour votre témoignage. Alain Roche, vous nous disiez aussi que derrière ce plan marketing et derrière ce contrôle du monde, du soft power et d'une certaine image, ça passe quand même par, à un moment donné, des résultats et du football.
C'est toujours le problème, il ne faut pas se détourner de ça. Pourquoi le Real de Madrid, le Barcelone, Manchester sont devenus des grands clubs? Parce qu'ils ont gagné, c'est tout. C'est la finalité du sport, c'est gagner. Alors c'est vrai qu'ils ont tout mis en place, ils ont mis de l'argent, ils ont fait venir des stars internationales, ils ont fait venir une marque qui s'appelle Neymar. C'est une marque, voilà, 300 millions de followers, c'est une marque quand il parle.
Beckham est venu comme Beckham. Marque, mais
ce que je trouve, c'est que
la Juve achète Ronaldo à plus de 30 ans et que les 172 millions d'euros que la Juve met sur Ronaldo, en 48 heures, ils sont remboursés par la vente des maillots et le cours de bourse.
Exactement, mais à un moment, c'est pas que la marque qui est nécessaire. À un moment, il faut des joueurs. Et si vous prenez que des individualités, ça ne peut pas fonctionner. Donc il faut une équipe. Et autour de ces individualités, qu'il faut pour faire la différence et pour faire un grand club, il faut des joueurs de devoir, des joueurs de tempérament, de caractère. On l'a eu avec Ibrahim. On l'a eu avec Ibrahimovic, l'Ardarien, qui dégageait un charisme colossal, qui faisait peur dans le vestiaire, qui l'en imposait, qui s'exigeait, lui, le très haut niveau. On l'avait avec Thiago Motta, milieu de terrain, qui gérait ça. On n'a plus personne maintenant. Mais et c'est ça qui manque. Il faut une équipe de tempérament.
Mais ils ont recruté quand même Daniel Alves pour ça, oui, Buffon pour ça.
Et ça n'a rien apporté.
Non, mais
ça n'a rien apporté. C'est ça, je veux dire. Mais Buffon est venu comme remplaçant. Il n'est même pas venu pour être titulaire.
Quand vous suivez le PSG à l'entraînement, enfin dans les rares espaces qu'on accorde à la presse aujourd'hui pour suivre le PSG, vous sentez ce manque de cohésion, ce manque de leader qui fait qu'aujourd'hui le projet géopolitique est passé devant le projet strictement sportif?
Non, parce que je pense que voilà, c'est un peu une lapalissade, mais en tout cas ce que montre l'équipe, c'est que le groupe vit bien. Vous la connaissez cette phrase, hein, on l'entend sous toutes ses coutures quand on parle d'un club de foot. Là, voilà, c'est sûr qu'avec les défaites, on sent que
il y a des crispations. Il y a un match bientôt Brésil-France qui se prépare à l'entraînement.
Donc il y a plus de crispation. Mais c'est vrai qu'il manque des leaders, parce que même les joueurs qui sont censés être des leaders, on peut penser à Thiago Silva, le capitaine du Paris Saint-Germain, il a cristallisé beaucoup de critiques. On pense notamment à la remontada face au FC Barcelone, où il a été incriminé directement sur cette défaite. Mais
ce qu'on lui reprochait d'ailleurs également au Brésil lors de la déroute en Coupe du Monde de l'équipe nationale.
Il manque quand même au Paris Saint-Germain peut-être une figure tutélaire qui avait été Zlatan Ibrahimovic, c'est vrai. Mais depuis Zlatan, il manque ce joueur qui peut endosser ce rôle.
Mais moi, je pense vraiment qu'au-delà le terrain, il faut des joueurs de temps.
Oui, au-dessus aussi, à l'étage au-dessus.
Moi, je suis navré que Blaise Matuidi soit parti de ce club, parce que là, de rien, c'était un joueur de devoir qui faisait beaucoup, qui était extrêmement généreux. Mais à un moment, il faut des hommes forts à tous les niveaux. Voilà.
Et tous les niveaux, c'est-à-dire sportif mental et
administratif, formation et tout ça.
Il l'avait trouvé, le Paris Saint-Germain, au départ.
C'est ça qui
est... Avec Leonardo Ancelotti.
Leonardo était là, l'air de rien. Ouais. On aime ou on n'aime pas le personnage pour avoir travaillé avec lui, mais il dégageait un truc. Voilà. Quand il avait quelque chose à dire aux joueurs, il était capable de leur dire et les joueurs l'écoutaient. Là, on change de directeur sportif tous les deux ans. Enter Henrique est sûrement quelqu'un de très bien, qui travaille bien, mais il est inaudible, on ne le voit pas, personne ne le connaît, il dégage de rien auprès des joueurs. Voilà. Et pourtant, j'ai rien contre lui. Mais c'est ça qu'on a un président qui est très discret. Alors à un moment, qu'il soit discret, peut-être, comme beaucoup de présidents le sont en Espagne ou en Angleterre, mais dans ces cas-là, on met un manager sportif que lui en impose. Il faut les hommes forts partout. Et là, à la communication, pour imposer aux joueurs de parler. Et là, on change tout, des directeurs sportifs, des entraîneurs, et on est toujours au même point. Parce qu'on a régressé sportivement.
C'est pas l'entraîneur, clairement. Je veux dire, faut dire à un moment clairement les choses. Mais pour rebondir sur Zlatan, il avait dit une phrase que tout le monde n'a pas oubliée, c'est « Avant moi, le Paris Saint-Germain n'existait pas ». Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt après lui que le Paris Saint-Germain n'existe plus.
Oui, mais cette phrase de « avant moi » était aussi une manière de déplacer le club.
Vous savez que c'est payé, ça, quand il fait des phrases comme ça.
C'est-à-dire ?
Ah bah, je veux dire, c'est tout, Zlatan, il faisait tout payer. Quand il sort une phrase comme ça, c'est pas anodin.
Non, j'irai pas jusque-là. Mais non, bon. mais c'est le discours qu'il a tenu.
Il fait du bien, mais allez au bout du raisonnement.
Moi, j'ai discuté, j'ai changé. Je veux dire, dans le sens où quand il sait, c'est une flatterie à ses propriétaires, en quelque sorte. C'est pas anodin. Je veux dire, c'est un garçon qui avait un sens politique extrêmement aiguisé, mais donc, à la différence peut-être de Monsieur Neymar, lui, il aurait pas pointé du doigt ses jeunes coéquipiers, quoi, publiquement.
Ben voilà la source du débat qu'on va pouvoir prolonger. On fait une courte pause. Je vous avais dit, parler de Paris, c'est pas seulement parler de foot. On fait le tour de la question ensemble, Julie.
Il est 9h30, on retrouve François Claus et ses invités. Julien Froment, qui est du service des sports d'Europe 1, il suit le Paris Saint-Germain. Il est au service des sports. Alain Roche est consultant sur Europe 1, ancien défenseur du PSG, de 92 à
18.
À 98. Et puis Nabil Djellit est avec nous, journaliste à France Football et lui aussi consultant sur Europe 1. On parle du PSG.
Ben oui, du PSG. Beaucoup, on a évidemment élargi le cadre parce que le PSG, on l'a compris, est aussi un enjeu pour les Qataris qui va au-delà du football. Pour revenir justement sur ce qui s'est passé, qu'on a relativisé, hein, parce que je rappelle quand même ce palmarès de 8 titres de champion de France, dont 6 en 7 ans ces dernières années, 8 Coupes de la Ligue, 12 Coupes de France, le PSG est inscrit durablement. Et puis même, malgré les échecs cuisants en Europe, le PSG en 5 ans est devenu l'une des 10 meilleures équipes européennes sur la place. Néanmoins, question sur l'avenir de ce Paris Saint-Germain, Alain Roche, si on doit donc décliner, dérouler l'ensemble des responsabilités, est-ce qu'il faut changer de président ? Est-ce qu'il faut changer d'entraîneur ? Est-ce qu'il faut changer de directeur sportif ? Est-ce qu'il faut changer de joueur ?
De joueur, oui. Oui, parce qu'il y a certains qui arrivent en fin de cycle. Quoi qu'il arrive, il faut qu'il y ait surtout un recrutement beaucoup plus homogène. Il y a des postes vraiment à pourvoir qui sont très importants sur un terrain et dans une équipe. Je ne pense pas qu'il faille changer d'entraîneur. S'il vous plaît, gardez un peu de stabilité.
C'est comme pour la radio et ses auditeurs. Le PSG et ses supporters, eh bien, il faut de la continuité, il faut prendre le temps.
On ne va pas le licencier au bout d'un an.
Bah
il est bien sûr qu'il est responsable de ce qui s'est passé, mais pas que. Pour avoir été joueur, on a quand même... Les rênes sur le terrain, le président, il ne changera pas. Je veux dire, voilà, il a été mis en place par les Qataris.
Il a un lien très étroit, Julien Froment, avec l'émir du Qatar. C'est quelque part l'envoyé spécial de l'homme qui a le carnet de chèques et les puits de pétrole.
Oui, il y a une proximité qui est très tenue entre Nasser Al Khelaifi et l'émir Al Thani. À chaque fois, dès qu'il y a une crise, entre guillemets, au Paris Saint-Germain, la question qui est posée, c'est est-ce que Nasser Al Khelaifi va être... Oui. Démis de ses fonctions par l'émir.
D'ailleurs, au moment où on pose la question, il est généralement auprès de l'émir au Qatar.
Sauf que voilà, Nasser Al Khelaifi fait partie des intouchables. Il a un profil, le profil idoine pour le propriétaire qatarien. Il est francophone, il connaît parfaitement les institutions du football français et européen. Il a de multiples casquettes parce qu'il est aussi, il s'occupe aussi de Bein Sport, il a aussi la fédération de tennis qatarienne. C'est vrai qu'il a un calendrier, un planning qui est ultra chargé, mais pour l'émir du Qatar, c'est extrêmement compliqué de trouver un autre homme de confiance qui puisse remplir les mêmes fonctions que Nasser Al Khelaifi.
C'est une question de logiciel. Il fonctionne pas comme nous, entre guillemets. Bah, c'est-à-dire que c'est un peu pas tribal. C'est-à-dire que en gros,
il y a la cooptation. Pardon.
Il y a un moment où on a parlé au Qatar de rumeurs comme quoi le frère de l'émir aurait pu reprendre la présidence du Paris Saint-Germain. Mais en général, eux mettent pas la main dans le cambouis. C'est-à-dire se mettre en première ligne en général. Parce que c'est Nasser, c'est une notabilité au Qatar. Il n'est pas de la famille royale, donc c'est une logique culturelle différente. C'est-à-dire que c'est pas l'américaine, quoi. C'est-à-dire c'est pas tu me rends ton bilan, je te dis tu restes ou tu restes pas. Je veux dire c'est une logique qui est différente, quoi. C'est pour ça que parfois ça peut surprendre d'ici, parce que on dit bah il est tributaire des résultats, où est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il fait pas. Sauf que c'est une affaire de famille presque.
Et ça veut dire, Alain Roche, qu'il a un déficit d'image par rapport à nos critères, nous, occidentaux, il a un déficit pour transmettre ce qui manque aujourd'hui au PSG, l'âme du club. Manchester United, c'était Ferguson. Aujourd'hui, ils ont une petite... Arsenal, c'était Arsène Wenger. À Paris, c'est qui ?
Oui, mais alors, tiens, vous parlez de Nasser Al-Khelaifi, qui est le président du club. Mais vous parlez de Manchester United, vous parlez d'un entraîneur.
On
ne connaissait pas le président.
Et le président, c'était un fonds d'investissement.
Un président, bien sûr. À Barcelone, le président, on le voit de temps en temps. Fiorentino Pires del Real aussi, on le voit de temps en temps. Voilà.
En Espagne, il y a une culture différente.
Je ne suis pas contre le fait que les présidents soient discrets. Et moi, ça me convient. Ce monsieur est au-dessus de tout le monde. Mais après, derrière, il faut soit un manager sportif très fort.
Qui incarne le club.
Arsène Wenger, peut-être, comme vous disiez, ou un Ferguson. Est-ce que tu aurais cette capacité-là ? Je ne sais pas, un Mourinho, pourquoi pas, ou alors un directeur sportif très fort. Et là, on ne le sent pas. Leonardo, oui, il était, on le voyait, il en imposait quand même. Il ne s'est pas trompé dans ses choix de joueurs, dans ses déclarations, il supportait le club, il soutenait le club, il le défendait surtout. Et moi, j'ai l'impression que ce club n'est pas défendu, ou très peu. Il n'est pas défendu dans les journaux, il n'est pas défendu dans les instances du football, il n'est pas respecté. Ce que peut faire Evra, par exemple, au Parc des Princes face à Manchester, ça ne se ferait pas dans des grands clubs européens. Pourquoi ? Parce que ce club n'a pas cette dimension et le respect qu'il doit imposer. Et ça part d'hommes forts, voilà.
Et là, on parle justement de ces... On évoquait le moindre grain dans la machine qui vient la perturber. Il y a eu l'histoire Serge Aurier, le défenseur, qui injurie son entraîneur Laurent Blanc sur les réseaux sociaux et qui, sur décision du club, reste quand même et fragilise son entraîneur.
Surtout le président vient le voir avec un match de réserve, alors que ce joueur-là a insulté son entraîneur.
Eh bien, qui pourrait incarner demain l'homme Ligue au Paris Saint-Germain, l'homme qui pourrait réincarner cette équipe et porter le sportif. On va en parler dans une seconde. Restez à l'écoute.
On fait le tour de la question avec laposte.fr/pro pour envoyer des lettres recommandées en ligne avec la même valeur juridique qu'un recommandé classique.
9h-11h, François Claus sur Europe 1.
On va retrouver François Claus et ses invités dans deux minutes, le temps d'écouter Dean Lewis. Il est australien et il chante Be Alright. C'était Dean Lewis, Be Alright.
Europe 1.
Jusqu'à 10h, le tour de la question sur le PSG. François Claus.
On est alright dans ce studio, en tout cas pour évoquer le Paris Saint-Germain. Et vous l'avez compris, on déroule beaucoup, beaucoup de fils. On a compris qu'il ne fallait pas que la géopolitique, même si elle est capitale pour le Qatar, vienne... obscurcir ou jeter un voile sur le strictement sportif. On a vu qu'il fallait une forme de stabilité. Alain Roche, c'est très important, cette stabilité, et d'avoir quelqu'un, disiez-vous, qui incarne le club, qui prenne les décisions et qui impose son autorité. Est-ce que ce constat-là, il va être fait par les dirigeants, et est-ce qu'il faut aller chercher sur le marché européen la perle rare, donc des noms déjà circulés, Arsène Wenger.
Mais c'est pas d'aujourd'hui qu'on en parle, hein, ça fait déjà 2-3
ans. Depuis que Leonardo est parti, en fait.
Qu'on souligne ce problème-là, surtout dans les moments un peu difficiles, et c'est là où on voit un peu la force d'un club et de ses hommes forts. On ne peut pas laisser toujours un entraîneur s'exprimer. Il parle avant les matchs, après les matchs.
Surtout quand il ne parle pas très bien français. Unai Emery, la presse a beaucoup souffert. Tourelle a fait des efforts très louables et qui nous ont tous frappés, mais il manque...
Mais comme avec Laurent Blanc, c'est pareil. Je veux dire, c'est lui qui a géré l'affaire Aurier tout seul et d'autres affaires. Et il n'y a personne derrière. À un moment, l'entraîneur ne peut pas tout faire. Il doit se concentrer sur le sportif. C'est pour ça que je dis qu'il faut absolument un mec qui en impose, et il n'y a personne. Je veux dire, pour l'instant, depuis la défaite de Manchester, le président n'est pas sorti dans la presse. Hein, on n'a rien. C'est toujours l'entraîneur qui doit se justifier, qui doit expliquer. Ce qui fait qu'il n'y a pas de discours commun et que tous les joueurs s'épanchent sur les réseaux sociaux. Ça a été Kimpembe après la Manchester. Oui. Ça a été Alves. Mais cette fois-ci, c'est Neymar. Donc il n'y a pas de cadre. Voilà. Donc il faut absolument... Je ne sais pas s'ils ont trouvé la...
Et
s'ils vont changer, surtout.
Julien Froment, pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à trouver cette perle rare ? Eux qui ont le chéquier le plus large aujourd'hui du continent pour gérer leur club.
C'est des luttes d'influence aussi. Ce n'est pas qu'une question de chéquier. Il faut qu'il y ait une osmose aussi entre les différents dirigeants. Vraisemblablement, cette saison, entre l'entraîneur Thomas Tuchel et le directeur sportif, le Portugais Antero Henrique, les relations sont assez tendues. Et c'est un euphémisme de dire ça. Donc, s'il n'y a pas une cohérence déjà, une osmose entre l'entraîneur qui est le garant du sportif et son directeur sportif qui est censé faire un recrutement pour améliorer l'équipe en cohérence avec son entraîneur, à partir de là, il y a déjà un problème. Donc, là, pour le moment, le problème du Paris Saint-Germain, il est là. Thomas Tuchel, d'ailleurs, l'a souligné à multiples reprises cette saison. Il y a eu beaucoup de blessés, il a manqué des joueurs à des postes importants, il ne les a pas obtenus, il a fait passer des messages. À un moment, il faudrait que tout le monde se réunisse autour d'une table, on discute franchement pour régler ce type de problème.
Ça, dit comme ça, ça semble relativement non, mais simple, mais derrière, c'est compliqué, Nabil Djellou.
Je ne vais pas chercher à faire partir Antero Henrique, d'autant qu'il va être extrêmement important.
Non, mais après,
important.
Là aussi, c'est, si Neymar est arrivé, il a eu un rôle.
Juste une remarque, Bayern de Munich, Salihamidžić, directeur sportif, ancien joueur du club. Récemment, on voit la réussite de l'Ajax, directeur sportif, Marc Overmars. Ancien joueur, grand joueur, à chaque fois grand joueur ou pas grand joueur, peu importe si tu as du charisme, la personnalité, les compétences, il n'y a pas de souci. On peut prendre
qui ont le maillot, l'âme du club, quelque part chevillé.
Ça, c'est important, c'est l'âme, l'histoire.
Chevillé au
corps. Quid des anciens du Paris Saint-Germain?
Allez-y, donnez la liste des grands anciens du Paris Saint-Germain qui pourraient. Alain Roche.
Il y en a plein.
Je suis passé, j'ai fait 9 ans à Saint-Val.
Je veux dire, alors il y a peut-être en interne, je ne sais pas, je soulève la question, après il faut voir son champ d'action et également s'il a une réelle légitimité. Mais là, on sait que par exemple, que près d'Antero Henrique, il y a Maxwell, le Brésilien.
Sportif.
Qui est directeur sportif adjoint, à mon avis, il orgne quelque part, et c'est logique en termes d'ambition, certainement, sur la possibilité un jour, comme Thiago Motta lui espère être sur le banc du Paris Saint-Germain, peut-être que la solution, finalement, peut venir aussi de ceux qui ont porté le maillot. Parce que quand tu as porté le maillot et que tu vas voir le gars et que tu lui dis dans les yeux, tu vas pas me la faire à l'envers, parce que moi, je sais ce que c'est de porter le maillot du Paris Saint-Germain, peut-être que déjà, quand tu es joueur et jeune joueur, peut-être déjà que ton regard, il est différent que finalement un directeur sportif, même s'il est très bon dans les transferts, qui arrive et qui est là peut-être que pour 2 ans et qui réfléchit au coup d'après. Je dis ça, je dis rien.
Non, mais c'est une piste, quoi. Vous avez dit beaucoup, Nabil. Et Alain Roche, d'incarner la culture du club, d'autant plus, et c'est pour ça que j'ai insisté là-dessus au début de l'émission, qu'il s'agit d'un club jeune, qui a déjà une grande histoire et un grand palmarès, mais jeune, ça serait important. Et ça, ce message, il faut le faire passer aux Qataris.
Je pense qu'ils le savent. Alors après, c'est bien d'avoir des anciens joueurs, mais il faut trouver des anciens joueurs qui ont la compétence, déjà pour un moment. La formation aussi, hein, ça se décrète pas. Hein,
les réseaux.
Les réseaux, oui. Mais ça se construit petit à petit. Mais c'est vrai qu'il faut une âme, une identité. Et il y a et souvent les anciens joueurs la représentent. Voilà. Après, il faut aimer le club, il ne faut pas s'en servir. Et on a l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui se servent du club. Il y a une organisation qui semble un peu nébuleuse. Hein. Il y a plus de 500 personnes.
Et la soupe est bonne au PSG,
il y a du monde dans tous les strates. Le pouvoir de décision est très lent à prendre, surtout dans certains secteurs d'activité. Peut-être un peu moins sur les professionnels. Voilà. Il y a sûrement des choses à régler, mais je ne suis pas dans le club. On suppose que tout ça, mais c'est vrai qu'on a besoin de personnes qui délivre une vraie identité du club, on l'a pas, voilà, c'est tout.
Quand vous dites soupe est bonne, Nabil, ça veut dire que finalement il y a beaucoup de dépenses inutiles, que ce sont des enfants gâtés, les joueurs du PSG, les cadres du PSG.
Non mais il y a les grands joueurs ou les joueurs dans tous les grands clubs de la planète, ils sont très bien payés. Mais parfois, moi, sur certains choix qui ont été faits, moi j'ai le sentiment qu'on donne des salaires chinois tout en restant en Europe. Excusez-moi, enfin je veux dire, quand tu prolonges Daniel Alves. Quelle est la réflexion sportive? Alors vous allez me dire, moi il a mis une super reprise de volée. Pas de souci, mais bon, son poste c'est pas non plus attaquant, c'est latéral droit. Aujourd'hui, Tuchel il a besoin de quoi? D'un latéral droit, on le sait très bien. Je veux dire, moi j'ai l'impression quand même, et en plus, et c'est extrêmement compliqué ça va être extrêmement compliqué pour le Paris Saint-Germain, parce que on parle de vendre pour acheter, mais les joueurs, ils vont pas partir, et on va pas les envoyer où on veut. Non mais
Julien Froment, on est dans cette équation très très compliquée et finalement là les quelques semaines qui nous séparent de la fin de saison pour préparer la suivante sont absolument capitales pour la suite du Paris Saint-Germain.
Oui, bien sûr, parce que ce qu'il faut pas oublier avec le Paris Saint-Germain, c'est qu'il y a un aspect financier. Alors, on a beau dire oui, le PSG appartient au Qatar, le PSG a des moyens financiers illimités, mais Paris ne peut pas faire ce qu'il veut avec l'argent. Il y a l'UEFA, l'instance européenne qui gère le football continental, qui surveille les comptes du Paris Saint-Germain.
Alors,
il y a eu des problèmes.
Pour nos auditeurs qui ne connaissaient pas le monde du football, le fair play financier initié par Michel Platini d'ailleurs, on ne doit pas dépenser plus qu'on encaisse comme recette.
Exactement. Si on peut... Et le Paris Saint-Germain, justement, a fait des dépenses somptuaires avec les achats de Neymar et Kylian Mbappé. Sauf que maintenant, il faut amortir ces dépenses. Oui. Paris a été dans l'œil du cyclone pendant une année. Là, ça s'est un petit peu, on va dire, desserré. Mais il faut toujours vendre encore pour rentrer dans les clous. Du coup, Paris n'a pas la marge que le club avait peut-être il y a quelques années.
À quoi pourrait ressembler le Paris Saint-Germain idéal la saison prochaine? Julie, on en parle dans une minute.
9h-11h, François Claus sur Europe 1.
Que se passe-t-il dans les rangs du PSG en ce moment et comment envisager la saison prochaine? François Claus.
Un jour, je rêve qu'on laisse un micro dans le studio et qu'on enregistre ce qu'on dit pendant les pubs. Ça alimenterait également le débat. Non pas qu'on vous donne, chers auditeurs, des infos qu'on n'a pas, mais le débat continue de manière extrêmement vive. Et Nabil Djellit, on évoquait les contours d'un Paris Saint-Germain idéal la saison prochaine. Et on l'a compris, un directeur sportif, entraîneur, manager qui incarnerait le club sous Nasser. Et en termes de recrutement, la difficulté, eh bien, de garder Neymar et Mbappé tout en vendant à côté.
Bah, de toute façon, Neymar et Mbappé, a priori, ils devraient rester. Après, Julien a tout dit, ils ont quand même envoyé des sommes assez hallucinantes sur le marché des transferts ces dernières saisons pour, au final, arriver à se dire que l'effectif est déséquilibré. Ça va être extrêmement compliqué, donc il n'y aura pas de folie. Alors, qu'on le dit tout de suite, il n'y aura pas de folie cet été, il n'y aura pas de grands transferts comme on a eu les saisons précédentes. Il va falloir être extrêmement réactif avant le 30 juin et vendre plusieurs joueurs pour espérer une marge et ensuite apporter des ajustements et les correctifs. Alors après, bah, peut-être que, comme le disait Alain, peut-être bah, que finalement, la logique pour le Paris Saint-Germain, c'est pas de recruter des stars, mais recruter des très bons joueurs, mais des joueurs de devoir, à des postes quand même clés. Ça fait deux ans qu'on nous rabâche qu'il n'y a pas de numéro 6 au Paris Saint-Germain. Ça fait deux ans qu'on nous explique que
le numéro 6, pour les auditeurs qui ne connaissent pas, c'est le joueur défensif qu'on ne voit pas et qui fait tout dans l'équipe. C'est un Didier Deschamps.
Je ne dis pas que ça va changer la face du Paris Saint-Germain, que le Paris Saint-Germain va gagner la Ligue des Champions, mais à minima, déjà, l'entraîneur, lui, aura quand même les éléments à sa disposition pour ensuite composer au mieux son équipe. Et puis, il y a eu aussi des cas et des sorties de route incroyables. Moi, je suis désolé, on n'en a pas parlé, mais Rabiot, c'est quand même un accident industriel, quoi.
Alors, pour revenir sur le cas Rabiot, justement, produit du club mal géré, mal utilisé, pour cette identité de jeu et d'image qui manque au Paris Saint-Germain, pourquoi pas construire, Alain Roche, un projet autour des deux stars, Mbappé, Neymar, et autour d'eux, eh bien, des jeunes issus du centre de formation qui est riche et que Paris voulait, c'était un des projets du club, développer.
Ça, mais personne ne parle, on parle toujours de ce qui se passe au-dessus, c'est l'équipe professionnelle, mais le Paris Saint-Germain travaille très bien sur la formation et sur la préformation, il ne faut pas l'oublier, il y a beaucoup
et
de joueurs qui sont sortis. Vous voyez, 3-4 jeunes joueurs qui jouent à Lille sont titulaires, sont ici du Paris Saint-Germain, il y a Kimpembe ici, il y a Rabiot, il y a Areola, le jeune Dagba qui est prometteur, il y a Nkunku, donc ça travaille, et on les met, et surtout c'est important, c'est qu'on les intègre aussi à l'équipe première, ça c'est important. Non, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est surtout, comme disait Julien, c'est travailler ensemble. Un directeur sportif qui travaille avec son entraîneur de la meilleure des manières et surtout trouver une équipe cohérente et équilibrée. Travailler autour de ses stars, toujours, toujours. Il faut des stars dans une équipe et il faut construire une équipe autour d'eux. Ils sont indispensables. Mais il faut que ça aussi, indispensable pour son équipe,
mais
qu'ils redonnent aussi aux autres. Ils sont capables de le faire. Donc il faut les mettre dans les meilleures conditions pour s'exprimer et ça demande une équipe qui soit forte. Les meilleures équipes et toutes les équipes qui ont gagné des grandes compétitions, elles étaient fortes défensivement. Voilà. Et le Paris Saint-Germain l'est un peu moins en ce moment, que ça soit défensivement de ses défenseurs et surtout étoffer son milieu de terrain avec des joueurs de tempérament et de sacrifice. Voilà.
Julien Froment.
Il n'y a pas beaucoup d'aménagements à faire, mais il faut qu'il soit cohérent.
Il faut qu'il soit cohérent et qu'il soit fait de manière collective, Julien Froment. L'histoire Rabiot, dont on parlait à l'instant, et l'illustration, finalement, rappelez-nous, pour nos auditeurs qui n'auraient pas suivi, le cas du jeune Rabiot, qui illustre finalement une forme d'échec du Paris Saint-Germain, qui est peut-être celui qu'il paye aujourd'hui dans ses mauvais résultats.
C'est un dossier un peu compliqué, parce qu'Adrien Rabiot, lui, est géré notamment par sa maman. Sa maman a le rôle aussi d'agent. Et Adrien Rabiot a souvent refusé des prolongations de contrat. Il faut savoir que c'est très compliqué pour un joueur qui souhaite quitter le Paris Saint-Germain. Il ne peut pas le quitter comme ça. Souvent, on évoque un peu la prison dorée quand on parle du Paris Saint-Germain. Adrien Rabiot, lui, a décidé d'aller jusqu'au bout de son contrat pour pouvoir signer dans un autre club librement, ce que le club refuse, parce que s'il part librement, c'est-à-dire pas d'indemnité de transfert, Adrien Rabiot, sur le marché des transferts, en ce moment, c'était un joueur qui vaut entre 40 et 50 millions d'euros quand il fait une saison pleine et qu'il est performant. Donc ça a cristallisé beaucoup de problèmes autour de son cas et du Paris Saint-Germain.
D'autant qu'il était le symbole de ce jeune Paris Saint-Germain, le fruit de la formation qu'évoquait
Alain Roche. Nasser l'imaginait à quelques saisons comme capitaine du PSG.
Non, mais Blaise Matuidi est parti aussi pour lui laisser la place.
Voilà.
Après, vas-y,
Julien. Non, mais tout avait été fait pour mettre Adrien Rabiot dans les meilleures conditions. Après, il y a eu des accords entre le club et donc le milieu de terrain français, mais ça illustre aussi des fois la difficulté du Paris Saint-Germain à gérer ces jeunes joueurs formés au club, à les mettre en valeur. Ouais. Et c'est vrai que ce cadre et un Rabiot interpelle.
Alain Roche, on peut sauver le soldat Rabiot encore ?
Non.
Non, mais c'est fini, il va partir. Après, moi qui connais un peu le contexte, parce que j'y étais quand il est arrivé avec sa maman, c'est compliqué. Adrien Rabiot, c'est compliqué jusqu'au bout. Donc, on ne connaît pas tous les méandres de toutes les discussions qui se passent, parce que ce n'est pas d'aujourd'hui. Ça fait 2 ans que ça dure, que ce garçon doit être prolongé. Peut-être que le club n'a pas fait les efforts nécessaires au départ. Après, ça s'est envenimé, c'était le conflit permanent. Moi, je suis partisan à un moment qu'il faut me taper sur la table et dire, voilà, c'est comme ça, tu ne veux pas re-signer, c'est pas grave, mais on se passe de toi. Voilà.
Et ça, on
après,
a pas
on n'aime pas, on apprécie. Mais au moins, on dit que le club est faible avec...
Voilà, il a tenu position, il a eu une position claire
exactement,
et nette
voilà. Alors après, on va me dire, on le fait avec un jeune, on ne le ferait pas avec un Neymar ou un Mbappé.
Vous avez coupé votre raisonnement, le club est faible, disiez-vous, avec les stars, et trop fort avec...
Non, c'est pas le cas, mais des fois, on dit qu'il est trop faible face aux joueurs, ben là ils en imposent, ils disent voilà le joueur, ben toujours après jusqu'à la fin de la saison. Moi je trouve que c'est louable, voilà. Je sais pas si j'aurais fait la même chose, mais je ne le conteste pas non plus, sachant qu'il y a des antécédents et que c'est pas simple avec ce garçon.
On l'a compris, alors Nabil Djellit, le Paris Saint-Germain là a finalement un mois et demi pour préparer la saison suivante, même si le mercato
J'espère
dura.
Ils ont déjà commencé à la préparer, parce que c'est pas bon signe.
Oui, voilà, c'est sûrement anticipé.
Pour conclure le projet, c'est possible pour le Paris Saint-Germain de redevenir l'équipe avec une âme, une identité et qui gagne.
Bah, évidemment, quand on voit la qualité des joueurs, quand on a vu, et il ne faut pas l'oublier, on l'a dit en début d'émission, pendant 6 mois, franchement...
Elle était exceptionnelle,
voilà,
franchement.
On était plutôt séduits par l'intensité quand le match allait à Manchester United. Qui, ici, autour de la table, imaginait une seule seconde cette deuxième partie de saison ? Moi, personnellement, j'en fais pas partie.
Je préfère vous dire les choses.
Mais le match retour, personne n'imagine que
vous allez perdre.
Ce qu'il faut occulter, c'est que le Paris Saint-Germain est champion de France, a une marge incroyable sur ses adversaires, peut finir la saison avec 99 points, ce qui serait du jamais vu dans l'histoire du championnat
la moyenne
français.
Des points de différence entre le premier et le deuxième dans le championnat de France est la plus haute jamais vue dans l'histoire du championnat de France.
C'est une saison tout en contraste, parce que Paris se fait perdre une finale de Coupe de France, ça n'était jamais arrivé sous l'ère qatarienne. Paris se fait éliminer en Coupe de la Ligue, ce qui n'était pas arrivé depuis de nombreuses années. Et en Ligue des Champions, une nouvelle fois, il s'arrête aussi en huitième de finale. Mais on ne peut pas non plus dire que la saison est cataclysmique, parce que Paris a été impérial.
C'est la façon dont elle a perdu, surtout, qui pose problème,
et c'est pour ça qu'on en a débattu, et en même temps, les défaites, on apprend des défaites aussi. Regardez l'Olympique de Marseille qui perd en finale de la Ligue des Champions, tout le monde est en larmes sur le Vieux-Port, tout le monde reste derrière l'équipe, et 2 ans après, eh bien, Marseille est champion d'Europe. Voilà, ça peut être un exemple pour les Parisiens que de ces défaites-là, de Barcelone, de Manchester et de Rennes, on apprenne pour reconstruire une équipe dans ce club, décidément, pas comme les autres. On a tenté de faire le tour de la question, on a parlé de beaucoup de choses. J'ajoute une dernière chose, Julie. Si le ballon de Mbappé va, non pas sur le poteau, mais rentre, c'est-à-dire ça joue quoi, 4 cm, 5 cm, on aurait fait d'autres commentaires totalement à l'inverse de ceux qu'on a fait aujourd'hui.
9h-11h, François Clauss sur Europe 1.